Règlement de compte. Une émission proposée par le docteur Dominique Demichel, médecin généraliste et psychanalyste, et Simon Martin. Le 8 mars prochain, à l'occasion de la journée de la femme, Leonardo Incapier, docteur en littérature médiévale et enseignant de langue et auteur d'une recherche doctorale consacrée à Tristan et Iseut, vous proposera de vous replonger dans cette légende du Moyen-Âge sous un angle tout à fait inédit, celui d'Iseut. Ce travail, réalisé par Leonardo Incapier, a donné naissance à un ouvrage publié aux éditions La Fontaine de Pierre, ouvrage intitulé Iseut, la vie, la mort, le renouvellement. En compagnie du docteur Dominique Demichel, nous avons voulu en savoir plus sur cette maison d'édition, sur son auteur, Leonardo Incapier. Monique et Michel Baqueta et Leonardo Incapier nous ont fait l'honneur de venir à Chartres dans nos studios et je les en remercie. Bonjour à vous tous.
Bonjour.
Monique et Michel Baqueta, vous dirigez aujourd'hui les éditions La Fontaine de Pierre, mais elles ne datent pas d'hier, ces éditions. J'ai vu que le premier ouvrage a été publié en 1978, il y a 40 ans.
Voilà, exactement. Les éditions ont été fondées, en effet, en 1978 pour l'apparition de cet ouvrage. Et ces éditions ont été fondées par Étienne et Francine Perrault. Et tous deux avaient à cœur de mieux faire connaître la psychologie de Carl Gustav Jung en France et en francophonie. Et c'est vrai que Carl Gustav Jung, qui est donc un psychiatre, psychanalyste, né en 1875 et mort en 1961, avait une certaine audience ici en France dès le début de son activité, mais n'était pas... ses œuvres n'étaient pas complètement traduites. Et donc, en 78, Étienne et Francine Perrault ont fondé cette maison d'édition pour publier les œuvres de quelqu'un qui a été une très très proche collaboratrice de Jung et qui s'appelle Marie-Louise von Franz.
Marie-Louise von Franz. Et donc, une grande partie du catalogue lui est consacrée.
Voilà, exactement. Exactement.
Et le premier ouvrage qui a été publié de Marie-Louise von Franz était aussi sur un conte.
Oui, c'est un conte d'Apulée, donc un auteur romain du IIIe siècle. Et le nom de ce conte s'appelle Landor.
Alors nous allons forcément voir au cours de ces émissions le lien entre Jung et les contes et les légendes, mais déjà pouvez-vous nous en dire quelques mots, parce que ça peut paraître assez loin, a priori un psychanalyste et des contes et des légendes.
Mais c'est-à-dire que pour Jung, les contes et légendes sont pour le collectif, pour la société, pour une époque donnée, ce que sont les rêves pour un individu. Et donc, il y a un lien très étroit entre le rêve et les images de contes. Et donc, il s'est intéressé aux contes, mythes et légendes pour mieux comprendre et faire et permettre à ses patients d'entrer en relation avec l'inconscient et de pouvoir mieux comprendre ce qui se trouvait à l'intérieur d'eux-mêmes.
Alors, ces éditions ont été fondées par Étienne et Francine Perrault. Qui étaient-ils ?
Mais tous les deux ont été extrêmement intéressés par Jung, qui les a aidés sur le plan personnel.
Non,
la psychologie jungienne, dirions-nous. Et donc, ils sont devenus analystes et Étienne Perrault, lui, a traduit certaines œuvres de Jung et Francine Perrault, elle, est devenue analyste et au moment où justement l'envie de propager un tout petit peu plus la psychologie jungienne en France est venue, elle... avec Marie-Louise von Franz, qui l'avait branchée sur certains ouvrages et certains cours qu'elle donnait à l'Institut Jung, c'est Marie-Louise von Franz qui lui a donné le feu vert pour traduire ses cours et en faire des livres à part entière.
Alors, en quoi Étienne Perrot a-t-il apporté quelque chose de nouveau, en tout cas de différent dans la pensée jungienne ? J'ai vu dans votre catalogue un livre qui m'a semblé très étonnant, comme le Coran teint, le Livre rouge, c'est-à-dire une troisième édition. On sent un esprit assez mystérieux chez Étienne Perrot.
Mais c'est-à-dire que lui a été vraiment pris et intéressé par l'alchimie et par le Jung alchimiste, enfin le Jung qui essayer de mettre en relation tout le travail des alchimistes avec justement l'inconscient collectif. Et Étienne Perrot était vraiment très en connivence avec cet univers-là. Et dans ses propres écrits, il y a ce lien avec les images primordiales ou ce que Jung appelait les archétypes, et ce qu'il voyait aussi apparaître dans les rêves des personnes qu'il recevait. Et pour lui, c'est toujours justement cette connivence entre le monde du rêve, de l'inconscient collectif qui se retrouve dans l'alchimie et aussi les mythes et légendes. Voilà.
Alors, dans votre catalogue, on trouve de très nombreux ouvrages de Marie-Louise von Franz. Nous en avons parlé un petit peu. Est-ce que vous pouvez nous la présenter, cette auteure ?
Marie-Louise von Franz a connu Jung. Enfin, elle était nettement plus jeune que Jung. Elle est née en 1915. Et elle a connu Jung alors qu'elle avait 18 ans. Et très vite, elle est entrée en analyse avec Jung. Et en échange de ses heures d'analyse, elle n'avait pas énormément d'argent, Jung lui a proposé qu'elle lise elle était très bonne en grec et en latin, et qu'elle lise les œuvres alchimiques et qu'elle lui signale les passages vraiment importants qui pouvaient alimenter sa propre recherche à lui. Et alimenter les écrits qu'il et les études qu'il faisait dans ce domaine-là. Et donc, toute sa vie, on peut dire, elle a été consacrée à la psychologie jungienne. Elle est devenue enseignante, conférencière. Elle a écrit pas mal de livres.
Qu'on retrouve dans votre catalogue.
Voilà.
Alors, je me tourne vers Léonard de Capier parce que j'imagine que quelqu'un comme Marie-Louise von Franz est importante pour vous, puisqu'elle a travaillé sur les légendes, sur les contes. Et vous êtes d'abord professeur de littérature.
Tout à fait. En fait, elle est très importante dans le sens où, pour moi, c'est elle qui a appliqué un tout petit peu la théorie jungienne à des analyses entre guillemets littéraires, parce qu'elle s'est préoccupée principalement de ce qu'on peut appeler la littérature populaire ou traditionnelle. Et donc, elle, en tant que qu'analyste à la base, elle essayait de comprendre des contes et des légendes. Et donc, il y avait déjà la possibilité d'une méthode appliquée là, pour travailler avec la littérature.
Et peut-être vous pourriez redire un tout petit mot sur l'alchimie, parce que pour beaucoup de gens, l'alchimie, c'est on transforme la pierre en or. Voilà, ça fait un petit peu fumeux, complètement ésotérique, avec une histoire qui est bon pour faire un bon film ou un bon roman, mais pas grand-chose de plus. Donc peut-être on peut dire qu'il y a là, ici, essentiellement une dimension symbolique de transformation au fond de l'individu ?
Oui, tout à fait. Et disons que les alchimistes se penchaient sur la matière elle-même pour essayer d'analyser comment, à travers des processus, en chauffant, en mettant dans des cornues, en mettant dans des alambics et tout ça, comment la matière se transformait. Donc il y avait une recherche sur la matière même. Mais Jung s'est rendu compte que cette matière qu'ils étudiaient pouvait être mise en parallèle avec un processus intérieur qui se développait au moment même où ils interrogeaient la matière. Et donc, il y a au niveau personnel, lorsqu'on se penche avec passion sur un sujet quel qu'il soit, et ça peut être aussi actuellement, il y a tout un travail qui se fait à l'intérieur de soi et qui est projeté, enfin le mot explique bien, qui est projeté dans la matière, mais qui en fait est le reflet d'états intérieurs profonds. Et donc, pour Jung, ce qui était intéressant, c'était de voir le lien entre le processus dans la matière elle-même et le processus à l'intérieur de soi.
Et peut-être on peut juste ajouter, pour mettre une image, qu'on va retrouver dans ce processus alchimique trois grandes couleurs, hein, avec d'abord le noir, ensuite le blanc et ensuite le rouge. Il y a le jaune un petit peu qui peut s'interposer aussi là-dedans. Et que ces trois couleurs qui correspondent, le noir avec le travail, avec les parties sombres de nous-mêmes, pour faire un petit peu court, le blanc avec un travail, on pourrait dire, de nettoyage, de lessivage. Je dis ça, c'est extrêmement basique, mais pour qu'on comprenne un petit peu. Puis le rouge avec un travail un petit peu de sublimation. Ces trois couleurs, on va les retrouver extrêmement souvent dans les rêves, dans les mythes et bien évidemment dans les contes.
Alors, à la mort d'Étienne Perrault, comment les éditions La Fontaine de Pierre ont-elles trouvé un nouvel élan? Je me tourne vers Michel Baqueta, dont on n'a pas encore entendu la voix.
Mais écoutez, à la mort d'Étienne Perrault, eh bien c'est sa femme, donc Francine, qui a repris un peu le flambeau et qui a, en 98, créé une association pour reprendre la suite des éditions et qui désirait surtout terminer la publication des ouvrages de Marie-Louise von Franz sur les contes de fées. Il y en a 10 et il lui restait encore 3, je crois, à traduire, et elle tenait absolument à arriver au bout de ce travail. Et donc c'est ce qu'elle a fait entre 1998 et 2005 environ, où elle a continué à être très active au niveau des éditions. Et c'est uniquement vers 2005-2006 qu'elle s'en est retirée, qu'elle nous a passé la main à Monique et à moi.
Alors attendez, comment ça s'est passé là? Vous étiez dans l'édition déjà avant? Qu'est-ce que vous faisiez alors?
J'avais déjà commencé depuis un certain temps de m'impliquer dans les éditions de La Fontaine de Pierre en tant que traductrice et puis aussi d'une manière plus générale, relisant les manuscrits et tout ça. Mais véritablement, c'est en 2005-2006 que justement Francine, sentant qu'elle avait d'autres choses à accomplir, plus personnel, sur un plan plus personnel, a souhaité se retirer des éditions. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé.
Vous êtes donc de formation de traductrice, c'est ça?
J'ai fait des traductions.
Vous avez fait des traductions?
Oui. J'ai une formation littéraire.
Littéraire. Et Michel Baqueta?
À moi, de formation, je suis plutôt... je suis ingénieur, j'ai fait du conseil en gestion d'entreprise. Donc, en fait, je me suis intéressé à ces éditions. Au début, pour aider ma femme dans tous les aspects de gestion, de finance, de juridique, production, etc. Et puis, bon, petit à petit, je me suis pris au jeu et je suis devenu, en quelque sorte, éditeur.
Un véritable éditeur, évidemment. Voilà. Parce que les éditions...
Vous y avez mis un petit peu votre patte aussi, au moins avec des photos, par exemple.
J'ai mis ma patte avec des photos et puis je me suis aussi mis petit à petit à faire des traductions sous la... disons sous la surveillance au début de ma femme, et bon, petit à petit, en prenant une certaine habitude,
autonomie.
Parce que La Fontaine de Pierre, c'est quand même une édition très particulière. Je me dis qu'en France, il ne doit pas y avoir beaucoup d'éditions spécialisées dans la pensée jungienne, non?
Spécialisées comme nous,
comme
à 100%,
vous, voilà,
non,
voilà.
Mais il y a quand même 2 ou 3 autres maisons d'édition qui publient des livres de psychologie jungienne. D'accord, oui, et nous ne sommes pas les seuls.
Vous n'êtes pas les seuls.
Non.
D'accord. Thank you. Règlement de compte se joue aujourd'hui à guichet fermé, notre studio est rempli, on ne peut plus faire un pas. Je suis en compagnie du docteur Dominique Desmichel, de Monique et Michel Baqueta, animateur des éditions La Fontaine de Pierre, et de Leonardo Incapier, auteur du livre Iseut, la vie, la mort, le renouvellement, aux éditions La Fontaine de Pierre. Leonardo Incapier, que vous pourrez retrouver le 8 mars prochain à la librairie L'Esperluette à Chartres, pour une conférence, une rencontre, une dédicace. Un peu tout ça.
Oui, un peu tout ça.
D'accord. Alors, au fait, pourquoi le nom de La Fontaine de Pierre ? Ça vient d'où ?
Oui, c'était justement une sorte de... Dans la pensée jungienne, la totalité est toujours de mise. Et la totalité est faite d'ambivalence ou bien de termes contraires. Et donc, fontaine, c'est la fluidité, tout ce qui coule et tout ça. Et la pierre, c'est ce qui est vraiment très stable, solide et qui est bien ancré. Voilà.
Dominique, vous voulez rajouter quelque chose ?
Oui, cet élément de tension entre les contraires est quelque chose qui est très important pour dire de manière simple. Au fond, j'ai évoqué tout à l'heure le terme de l'ombre. Hein. L'ombre, ça correspond, pour dire les choses très simplement, un petit peu aux parties de nous-mêmes que l'on n'aime pas trop ou aux parties de nous-mêmes qu'on a mis dans un petit coin parce qu'elles n'ont pas eu l'occasion de se déployer, de prendre de l'espace, au fond. Et donc, on pourrait dire que dans la pensée jungienne, il y a l'idée d'essayer de mettre à jour, au fond, ces parties sombres de nous-mêmes et d'essayer de tenir des positions qui sont opposées. Voilà, cette tension entre des choses très opposées est quelque chose qui est très important, qu'on retrouve aussi, par exemple, dans des traditions plus orientales, comme le Tao, par exemple, ou d'autres choses.
Oui, alors, cette totalité, on la retrouve tout à fait dans le catalogue de votre maison d'édition, qui est très riche. Donc, on y trouve une collection consacrée à l'alchimie. Nous en avons parlé un petit peu plus tôt, l'importance de l'alchimie chez Jung. Mais il y a aussi des ouvrages sur les religions.
Oui.
Entre autres, Étienne Perrault, lui, avait traduit des ouvrages chinois, le Tao Te Ching, c'est ça ?
Le Tao Te Ching et le Yi Ching, oui, les deux ouvrages du taoïsme importants.
Alors, quelle place ont ces ouvrages sur les religions dans la pensée jungienne ?
Comme Jung était intéressé par les mythes, les légendes, les contes, en fait, le sentiment religieux... pour lui, était quelque chose d'essentiel, non pas confessionnel. Il ne s'agissait pas de... Parce que peu importe la religion dans laquelle ça s'exerce, mais ce sentiment de quelque chose qui dépasse l'homme et qui se trouve comme amplifiant l'expérience humaine du côté du divin, et c'est quelque chose que Jung a beaucoup exploré.
Alors, d'autres collections sur les rêves, les archétypes, les symboles, la voix intérieure, ça peut paraître plus normal, effectivement, dans une maison d'édition qui s'intéresse à la pensée jungienne. Il y a effectivement de nombreux livres, alors très nombreux, consacrés aux contes, aux légendes, dont celui de Leonardo Incapier. Je me tourne vers Leonardo. Comment s'est fait cette rencontre avec la maison d'édition La Fontaine de Pierre ?
Cette rencontre, bon. Et disons que j'avais fait un travail intérieur avec mes rêves, avec l'aide de Monique Baqueta. Donc, j'ai connu plutôt d'abord Monique et ensuite la maison d'édition, même si j'avais déjà repéré des textes qui étaient édités par cette maison. Mais la rencontre a été plutôt personnelle, tout d'abord.
Alors, vous êtes, je l'ai dit, enseignant en langue et puis docteur en littérature médiévale. Comment en êtes-vous venu à vous intéresser aux théories jungiennes ?
En fait, j'ai étudié la psychologie il y a de longues années. Je suis d'origine colombienne. Et donc, avant de venir en France, j'avais déjà fait un parcours d'études, dont la psychologie. C'était pendant mes études en Colombie de psychologie que j'ai connu Jung et que, disons, je me suis intéressé énormément à ses concepts, à sa théorie, à son parcours.
Et c'est courant parmi vos collègues en littérature médiévale d'aborder ces questions sous l'angle de la psychologie, de la psychanalyse jungienne ?
Ce n'est pas très commun. Disons que je ne suis pas le premier non plus. Il y a eu des études... Je pense que c'était surtout pendant les années 90 fin des années 80, début des années 90, où il y a eu un petit engouement vis-à-vis de ces approches de la littérature, que ce soit du côté de Jung ou du côté de Freud ou du côté de Lacan. Donc il y a eu pas mal d'approches, disons, psychanalytiques de la littérature. C'est tombé un peu dans les oubliettes maintenant, et disons que j'essayais en quelque sorte d'avoir un regard nouveau vis-à-vis de cette possibilité de mettre en rapport et la psychologie jungienne et la littérature.
Alors je me tourne vers Monique et Michel Baqueta. De votre côté, comment s'est faite la rencontre avec Leonardo? Comment avez-vous reçu son texte? Comment ça s'est passé pour cette publication du livre dont je rappelle le titre, Iseut, la vie, la mort et le renouvellement?
Mais au niveau du texte lui-même, c'est vrai que l'intérêt a été très très grand avant même qu'il n'y ait l'envie d'une publication. Mais la thèse de Leonardo était extrêmement intéressante.
Mais vous en avez discuté même en dehors
Oui, bien sûr.
De toute question d'édition.
Voilà, c'était bien avant qu'il y ait ce projet qui soit accompli. Et c'est vrai que Leonardo a un enthousiasme très, très, très immense pour tout ce qui touche et la littérature et la psychologie jungienne, et aussi des connaissances aussi très, très importantes. Et donc la combinaison de ces éléments a fait que le livre est sorti.
Alors Leonardo, vous êtes également homme de théâtre. Est-ce que vos recherches sur la pensée jungienne, sur les légendes, vous ont permis de porter un regard différent sur... Vous êtes acteur sur le métier de...
Je suis à la base acteur. Maintenant je suis metteur en scène.
Metteur en scène. Plutôt, ça vous a permis justement de porter un regard un petit peu différent sur votre travail de théâtre?
Ouais. Mais disons qu'une fois qu'on connaît la théorie jungienne, je pense qu'on change son regard vis-à-vis de tout. Ah. Pas seulement que vis-à-vis de son travail artistique, hein, pour le coup. En tout cas, je pense que Jung touche quelque chose d'essentiel dans l'être humain. Et donc, quand on travaille dans l'art, que ce soit ou la peinture, ou la musique, ou le théâtre, comme c'est mon cas, et qu'on connaît déjà, qu'on a en quelque sorte vécu aussi quelle est l'essence de ce que Jung voulait dire, voulait transmettre, c'est presque impossible de ne pas le retrouver dans son travail à soi.
Alors, vous dites, ça change le regard, mais de quelle manière? Est-ce que la pensée jungienne réenchante un petit peu le monde en proposant justement ce regard vers l'alchimie, vers le rêve, vers les synchronicités, vers tout cet univers-là?
Oui, je pense qu'il y a quelque chose que nous avons perdu depuis quelques siècles dans les études que l'Occident fait vis-à-vis de l'homme. C'est que c'est l'idée de la nature humaine. C'est un concept qu'on a perdu parce qu'on se concentrait sur beaucoup d'autres choses comme les analyses linguistiques ou en tout cas de la représentation vis-à-vis de l'homme, les analyses du signe verbal, et que cette idée de nature humaine... Elle est devenue en quelque sorte désuète.
Et on avait l'impression de tout savoir, peut-être, non?
Non, pas forcément. C'est juste qu'on trouvait que essayer d'analyser ce que la nature humaine était peut-être détournait un tout petit peu le regard vers quelque chose qui était inassible ou qui était un peu transcendant ou un peu... Oui, qui dépassait un peu notre entendement. Et je trouve que le point important de la théorie jungienne vis-à-vis de ça, c'est de récupérer pour nous, de nouveau, une idée de ce que peut être la nature humaine dans sa théorie. Et du coup, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, vis-à-vis de la possibilité d'analyser l'homme, ce que nous sommes, d'analyser l'être humain, de ce que nous devenons, pourquoi nous sommes là.
Mais ces possibilités paraissent vertigineuses, en touchant, comme disait Michel Baqueta, à une totalité, à tous les domaines, au paradoxe et puis à énormément de choses.
Mais la vie est vertigineuse, vous ne croyez pas? La vie est vertigineuse.
Dominique Dumichel, je vous laisse le mot de la fin. voyez comme je suis généreux.
Oui, merci Simon. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Peut-être par rapport à ce que vous venez de dire, Leonardo, je dirais aussi toute la dimension de la vie symbolique. C'est-à-dire au fond de la place du symbole dans notre société. Et probablement, on peut penser que peut-être très, très ancré, très marqué par une pensée opératoire, par la nécessité d'être productif, par un rapport à la réalité qui serait quasi la seule chose qui compterait au fond dans notre monde, il y a quelque chose qui aurait été profondément oublié, qui serait que peut-être ce qui nous meut en profondeur et ce qui vient donner du sens à notre existence s'enracine énormément dans la vie symbolique, sens en tant que direction, signification, mais aussi sensorialité pour ne pas oublier la dimension de la nature.
Je rappelle la rencontre qui aura lieu le 8 mars à la librairie L'Esperluette à Chartres. Leonardo Incapier, je vous remercie et puis je vous propose de revenir dans 15 jours sur cette même antenne pour nous parler plus en profondeur de votre livre « Iseut, la vie, la mort, le renouvellement ». C'est aux éditions La Fontaine de Pierre qui était représentée par Monique et Michel Baqueta que je remercie énormément d'avoir fait le voyage jusqu'ici à Chartres. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Je reviendrai avec plaisir.
Merci Dominique et à très bientôt.
Merci Simon.